Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Plusieurs milliers de soldats sont d'ores et déjà déployés à Washington en prévision du départ de Donald Trump de la Maison Blanche et de l'investiture de Joe Biden mercredi prochain. Jean-Bernard Cadier s'y trouve également. Il est mon premier invité ce matin. Et mardi prochain commence à Paris la Fashion Week masculine. Crise sanitaire oblige, les défilés auront lieu exclusivement sur Internet. Sophie Fontanelle, pour qui la mode n'a aucun secret, va nous raconter cette petite révolution. Enfin, je recevrai Frédéric Mounier pour son livre sur le siège de Paris pendant les guerres franco-prussiennes. Et oui, il y a 150 ans exactement, Paris était la dernière capitale européenne à subir un siège en règle et la première à subir un bombardement aveugle visant la population civile. 250 000 Prussiens nous encerclaient, ils gelaient à pierre fendre et nos aïeux en étaient réduits à manger du rat. Bonjour Jean-Bernard Cadier.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes à Washington, vous êtes le correspondant de BFM aux États-Unis et vous êtes l'auteur de deux livres, l'un sur Trump, Néron à la Maison Blanche, il est sorti l'année dernière, et l'autre c'est une biographie de Joe Biden, de Scranton à la Maison Blanche, qui paraît aux éditions de l'Archipel. Pour qu'on comprenne bien la situation aux États-Unis, je pense qu'il faut s'imaginer qu'il y a actuellement 10 000 soldats américains déployés à Washington, hein, soit plus qu'en Afghanistan et en Irak réunis.
La capitale, oui, effectivement, ici Washington, est devenue une véritable forteresse. Plus de 10 000 soldats de la garde nationale qui sont dans tout le centre-ville. On n'a jamais vu ça dans l'histoire récente, on n'a jamais vu ça tout court.
On a peur de quoi ?
On a peur du retour des extrémistes qui ont envahi le Capitole le 6 janvier. On sait qu'ils sont toujours là. On sait que Donald Trump ne leur a pas clairement donné l'ordre de rentrer chez eux et d'abandonner le combat. Et ils restent extrêmement frustrés. Ils sont persuadés qu'ils ont perdu l'élection. Ils sont persuadés que l'élection a été volée. Ils sont persuadés qu'il est tout à fait injuste qu'on ait privé Donald Trump de réseaux sociaux. Et donc, à cette masse de Trumpistes déçus, vient s'ajouter, et ce sont eux les plus dangereux, des extrémistes, que le FBI appelle lui-même des terroristes de l'intérieur, qui attendaient un moment comme celui-là pour essayer de faire avancer leur cause extrémiste, suprémaciste, nationaliste, et c'était eux qui étaient le fer de lance de l'attaque le 6 janvier.
On se pose beaucoup la question ici en France, à savoir est-ce que c'était un coup d'État ou pas, est-ce que c'est fasciste ou pas, est-ce que c'est le cas aussi aux États-Unis ?
Pas vraiment, parce que l'hypothèse du coup d'État a quand même été abandonnée. Un coup d'État nécessite d'avoir un plan, de savoir qui on va mettre au pouvoir et selon quel plan. Or, ces individus qui sont entrés dans le Capitole n'avaient pas véritablement de plan. Il n'était pas question pour eux d'enlever telle personne ou de supprimer telle personne et de mettre à la place telle autre personne. Ça aurait été la définition du coup d'État. Mais c'est un peu une polémique sémantique qui est un peu secondaire parce que c'est une insurrection. Leur but était quand même d'attaquer, de déstabiliser les institutions pour défendre un président qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc même si techniquement on n'est pas au coup d'État, politiquement on n'en était pas très loin quand même.
Alors là, la procédure de destitution de Donald Trump, la deuxième donc, a été déclenchée. Il sera jugé par le Sénat pour incitation à l'insurrection après qu'il aura quitté la Maison Blanche. Est-ce que ça n'est pas contre-productif ? On se souvient des démocrates pendant toute la durée du mandat de Donald Trump rêvant de le faire tomber et ne pensant qu'à cela. Est-ce que ça n'est pas un mauvais départ pour l'administration de Joe Biden ?
C'est une question très intéressante parce qu'il a déjà été impeached une fois, il y a tout juste un an, et ça n'a pas empêché 74 millions d'Américains de voter pour lui. Le but de cette première procédure d'impeachment il y a un an, c'était de discréditer une fois pour toutes ce président. Et bien, il n'a pas été discrédité lors du premier impeachment, puisque, encore une fois, 74 millions d'Américains ont voté pour lui. Deuxième impeachment, là, les faits sont infiniment plus graves. Les démocrates disent qu'ils n'avaient pas le choix. Mais oui, en effet, le risque existe. Jusqu'où va-t-on aller? Est-ce que l'impeachment n'est pas en train de se dévaloriser, démonétiser, de devenir une arme politique comme une autre? C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un deuxième impeachment. Peut-être un jour, il y en aura un troisième, un quatrième. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Et effectivement, on voit dans les sondages qu'il n'a pas été totalement discrédité par cette procédure d'impeachment. Au contraire, on a l'impression que les Républicains continuent à resserrer les rangs autour de lui. Seulement 8% des Républicains ont soutenu cette procédure du second impeachment.
Oui, il faut savoir que 64% des électeurs républicains continuent d'approuver son comportement et 57% souhaitent le voir candidat en 2024. Est-ce que ça n'est pas ça le but de cette procédure de destitution? C'est que s'il est condamné... ça le rendra inéligible à vie. Or, Donald Trump dans l'opposition, ça peut être terrible pour Joe Biden.
Oui, effectivement, c'est clairement le but, puisque cette procédure de destitution ne pourra pas arriver à son terme avant que Trump ait quitté le pouvoir. Donc on ne va pas destituer un président qui n'est plus au pouvoir. Il ne reste plus qu'une option, et qui n'est pas négligeable, vous avez raison, c'est l'inéligibilité, faire en sorte qu'il ne puisse pas se représenter en 2024. Effectivement, c'est une menace pour Joe Biden, ça serait une menace aussi pour le Parti républicain, qui rêverait de se débarrasser de ce Trump, qui leur a quand même fait perdre en quelques années la Chambre, la Maison-Blanche, le Sénat, et qui leur a fait perdre beaucoup de crédibilité avec les événements du 6 janvier. Mais, si les cadres du Parti républicain rêvent de se débarrasser de Trump, la base, vous l'avez dit, dans les sondages, est toujours là, et Trump n'a peut-être pas encore disparu du paysage politique.
Au-delà de la procédure de destitution, il risque d'être poursuivi sur le plan individuel pour fraude fiscale, fraude à l'assurance, harcèlement, viol, je ne sais quoi encore. Est-ce qu'il peut s'autogracier?
Il en rêve, il en a parlé à ses proches. Les présidents, quels qu'ils soient, hein, Obama aussi, Clinton, dans leurs derniers jours, ont l'habitude de prononcer des grâces présidentielles. Ça fait partie des privilèges de la présidence. Lui rêve de s'autogracier en disant que tous les faits qui ont été commis pendant qu'il était à la Maison-Blanche ne pourraient pas être l'objet de poursuites. C'est pas exclu que ce soit possible constitutionnellement. La Cour suprême s'est déjà prononcée au XIXe siècle là-dessus. Il y aura un débat. L'autre risque pour lui, c'est que s'il s'autogracie après les faits du 6 janvier, ça veut dire qu'il est présumé coupable. S'il s'autogracie, c'est qu'il pense qu'il est coupable de quelque chose. Et donc là, il pourrait y avoir des poursuites au civil contre lui. Et ses propres avocats lui disent « Faites attention, ça serait dangereux de tenter cette procédure-là ».
Jean-Bernard Cadier, on fait une pause, on se retrouve juste après. Et là, on parle de Biden.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Jean-Bernard Cadier, qui est à Washington. Jean-Bernard Cadier, qui est l'auteur d'une biographie de Joe Biden, de Scranton à la Maison-Blanche, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Alors, on imagine Trump dans l'opposition, mais bon, réduit quand même à quasiment au silence. À la fois, on le sait, il n'a plus accès à Twitter. La Deutsche Bank a annoncé qu'elle cesserait de financer ses développements immobiliers. Donc vraiment, c'est un Trump acculé, réduit, qui peut passer facilement pour une victime. Et puis de l'autre côté, il y a Joe Biden, donc qui va être investi le 20 janvier. A priori, on se dit, bon, ben, c'est un boulevard pour Joe Biden. Il a le Sénat, il a la Chambre des représentants, vous l'avez dit. Mais il est face à lui, il y a quand même une gauche, la gauche du Parti démocrate, qui a participé à sa victoire. Et on se demande si elle ne lui fait pas déjà un petit peu la gueule.
Oh, écoutez, c'est pas son souci premier, Biden. Et d'ailleurs, son souci premier, c'est la crise. Son premier souci, c'est les crises. La crise sanitaire, le vaccin qui est aussi long ici et lent que partout ailleurs, le nombre de morts qui n'a jamais été aussi élevé, la crise économique qui commence vraiment à être ressentie ici. Et il a présenté jeudi un plan qui, pour le coup, pourrait plaire à cette aile gauche. Parce qu'il y a le doublement du salaire minimum, il y a le prolongement des indemnités chômage, et il y a une très très forte augmentation du déficit budgétaire pour un plan de relance. Il est possible que cette aile gauche, à la fois devant la menace de la crise et la menace d'une résurgence d'un Trump qui serait toujours dans le paysage, lui laisse quelques mois d'état de grâce. ce n'est pas exclu.
Il faut voir que les chiffres du commerce extérieur de la Chine viennent de tomber. La Chine a un excédent commercial de 535 milliards de dollars en 2020. C'est absolument époustouflant, dont 317 milliards d'excédents avec les États-Unis. C'est une augmentation de 7% cette année, en dépit de la guerre commerciale et des sanctions qui ont été décrétées par Donald Trump. La Chine sort renforcée comme jamais, et de la guerre commerciale et du Covid.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'avait toujours dénoncé Trump, plus que ses prédécesseurs. D'ailleurs, il faut bien lui rendre hommage là-dessus. Il avait dénoncé ce déséquilibre. Le déséquilibre existe, il s'accroît. Quelle sera l'attitude de Joe Biden? Elle ne sera pas très différente de celle de Trump. Biden a bien compris le danger de ce déséquilibre commercial. La stratégie pourrait être un peu différente. Elle pourrait être beaucoup plus multilatérale. Joe Biden pourrait s'appuyer sur les Européens pour essayer de faire plier la Chine sur les normes du commerce international. Et il est vrai que Biden a été un peu déçu. Il va falloir lui expliquer par l'accord commercial sur les investissements entre la Chine et l'Union européenne récemment.
Oui, mais, ça peut passer pour une trahison, oui, cet accord entre la Commission européenne et la Chine.
Il va falloir expliquer à Biden que ça n'est pas une trahison, mais a priori, sur le fond, il a la même approche que Trump par rapport à la Chine, et je pense c'est un président qui est très orienté vers l'Europe. S'il y a un malentendu, je pense qu'il sera levé rapidement.
Maintenant que l'on connaît son gouvernement, enfin, vous le connaissez mieux que nous, parce que pour la plupart, nous ne connaissons pas ce qu'il a nommé. Quelle va être sa politique étrangère à Joe Biden?
Alors, elle sera très classique. Ce sera très vraisemblablement un retour aux années Obama, c'est-à-dire un internationalisme prudent, une immense prudence quant aux interventions armées extérieures. Biden était encore plus prudent qu'Obama, parce que Biden, par exemple, était contre le raid pour tuer Osama Ben Laden. C'est un homme, Biden, qui se méfie énormément de l'engagement des troupes américaines à l'étranger. Mais le mot-clé, c'est multilatéral. Et contrairement à Trump, qui faisait « America first », et puis en fait, ça a fini par être « America alone », l'Amérique seule, Biden, et certainement par des gestes symboliques dès le début, va relancer la coopération internationale sur des sujets cruciaux comme le climat en premier lieu et aussi la question iranienne.
Le 20 janvier, au moment de son investiture, on le sait, Donald Trump ne sera pas là, personne ne le regrettera, sûrement pas Biden d'ailleurs, qui a dit qu'il ne le regretterait pas. C'est une première que le président précédent ne soit pas là?
Alors, au début de la Constitution, au tout début, Jefferson, John Adams n'étaient pas là parce qu'ils étaient fâchés d'avoir été battus. Puis après, c'est devenu une tradition. Richard Nixon n'y était pas, mais lui, il avait démissionné. C'est un peu différent. C'est une première dans l'histoire récente. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus.
Vous pensez que l'Amérique est réconciliable? C'est la grande question qu'on se pose après 4 années de Trump, Jean-Bernard Cadier.
Je pense qu'elle est difficilement réconciliable, mais qu'il reste une toute petite chance, et cette toute petite chance s'appelle Joe Biden. Précisément parce qu'il est Joe Biden, parce qu'il a 78 ans, parce qu'il a 30 ans d'expérience de compromis au Sénat. Et vous aurez peut-être remarqué que la semaine dernière, pendant tout le débat sur l'impeachment, Joe Biden a été silencieux. Joe Biden ne s'est jamais prononcé pour l'impeachment. Lui, il préfère toujours les compromis, la main tendue, les discussions avec le camp d'en face. C'est ce qu'il espère pour son plan de relance. Pendant que tout le monde parlait de l'impeachment, chasser Trump, la violence, scandale historique jamais vu, lui, il faisait des discours sur la Covid et sur la relance économique. On peut espérer que Joe Biden va utiliser son expérience, son immense expérience, pour essayer de réconcilier l'Amérique, mais ça va être difficile.
Merci Jean-Bernard Cadier. Je rappelle le titre de votre biographie de Joe Biden, Joe Biden de Scranton à la Maison Blanche. Ça vient de paraître aux éditions de l'Archipel. On se retrouve dans un instant avec Sophie Fontanelle. On va parler mode et défilé de mode, car il va y en avoir.
Europe 1. C'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, l'auteur de La Vocation, d'Une apparition, des Fables de La Fontanelle. Mais votre profession, c'est la mode. Vous avez été la directrice de la mode à Elle. Vous êtes aujourd'hui critique de mode à l'Obs. La Fashion Week commence mardi à Paris. Les collections de prêt-à-porter pour hommes automne-hiver 2021-2022 seront dévoilées à cette occasion. Mais les défilés auront lieu uniquement en ligne, sur Instagram en particulier. L'avantage, c'est que tout le monde peut y assister, mais est-ce que c'est réellement un progrès pour vous ?
Alors, c'est un progrès au sens où les défilés de mode, on leur a beaucoup reproché d'être un entre-soi. Et donc, ça finissait par monter cette colère, vous voyez, un peu. Nous aussi, on est gilets jaunes, hein. Donc ça montait. Et puis là, maintenant, tout le monde peut assister au défilé. C'est juste que tout le monde voit la même chose. Que vous soyez la directrice du Vogue américain ou que vous soyez une adolescente ou un adolescent de 14 ans, ben vous voyez tout le monde voit la même chose. Maintenant, c'est vrai que ça enlève beaucoup 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 de la magie des défilés, beaucoup beaucoup de ce que ça veut dire de justement de ne pas pouvoir y aller et d'en rêver. Et il va falloir voir ce que ça va donner.
Mais est-ce qu'il y a la même effervescence qu'il y en a normalement dans Paris au moment d'une Fashion Week, même si on n'est pas touché, on finit par en ressentir les ondes hein, dans Paris. Là, ça va pas être la même chose, j'imagine.
Ah non, mais ça va pas du tout être la même chose. Il y a zéro effervescence. Je suis chez moi. Enfin, je me suis habillée parce que je passais à la radio, comme on dit. Mais sinon, si vous voulez, je passe la journée chez moi. Là, c'est en ce moment. Hein. Et de temps en temps, je vais sur mon ordinateur pour regarder des shows. Voilà, c'est ça l'effervescence. Et j'ai même appris un truc très drôle, c'est que la Fédération de la mode qui nous fournit des voitures, parce que si vous voulez, c'est un marathon. Hein. Ça, il y a plusieurs défilés par jour. Il faut courir partout. Mais il y a quand même des gens qui ont demandé une voiture pour aller nulle part. Donc je trouve ça, c'est très drôle, c'est vraiment les gens dans la mode en ce moment qui assistent au show, ils sont comme des poulets sans tête, ils comprennent pas ce qui se passe, mais vous savez, tout ça n'est pas forcément négatif.
Hein. Est-ce qu'il y a un aspect créatif supplémentaire, puisque ça se passe en vidéo, donc les trésors d'inventivité du monde de la mode peuvent se déployer?
Mais ça a obligé les marques, il y en a beaucoup, ça les a obligés à se demander à quoi ça rimait tout ça. Et notamment, à quoi ça rimait de faire marcher quelqu'un en long et en large sur un podium. Parce qu'on se pose même plus la question. Mais autant vous dire que si moi je vous emmène, je sais que vous allez de temps en temps à des défilés, Frédéric, mais si je vous emmène à un défilé, vous allez tout de suite me dire, mais ça n'a pas de sens. Donc, quand on fait un défilé virtuel et qu'on touche encore plus de gens, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se connectent, des millions, ben, en fait, les gens, s'ils comprennent pas Où va la fille, le garçon en l'occurrence, là, pour ses shows, qui marche, il trouve ça stupide, en fait. Surtout à une époque où on sait nous-mêmes pas trop où on va. Donc, ça a obligé les marques à chercher un sens à cette marche. Donc, il y a eu, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a eu un défilé de Balenciaga, absolument génial, qui est filmé dans la rue à Paris la nuit, avec des mesures de sécurité, autant vous dire, terribles. Il y avait presque personne sur le tournage. Et ces gens marchent d'un air décidé pour aller à une fête imaginaire. Ça, les gens comprennent. Dans le monde entier, tout le monde comprend. On peut pas sortir, on peut pas aller à une fête, c'est interdit. On comprend que, tout d'un coup, il y a comme un fantasme de cette idée d'y aller, quoi. Voilà. Faut chercher un sens aux choses et ça va faire du bien à la mode, je trouve, de se poser la question de ce qu'elle veut dire.
Vous dites que des millions de gens se connectent, mais est-ce qu'il y aura autant de retours dans la presse, dans les journaux, parce qu'il n'y a pas de photographes comme il y en a normalement sur les défilés?
Mais c'est pas tellement les photographes, parce que les photographes, eux, ils continuent de faire leur travail. Ils prennent les photos des mannequins qui défilent et ils les postent. Ça, tout le monde peut le faire. Il y a un endroit qui s'appelle Vogue Runway, qui est un site, une application, et on va dessus, et on voit tous les défilés avec des photos comme ça. Mais c'est pas ça qui fait la vie des shows. Ce qui fait la vie des shows, c'est les gens qui sont dehors, qui prennent les gens qui arrivent avec leur look, parce qu'il y a quand même, enfin, c'est quand même des gens, pas tous, mais il y en a quand même pas mal là-dedans qui ont du style et qui savent s'habiller. C'est les mannequins qui sortent du défilé, qui ont remis leurs jeans, qui ressemblent un peu à des crevettes, mais en même temps, elles sont quand même, elles ont une allure, ces filles-là. Donc, c'est tout ça, et c'est aussi les photos que plein de gens qui sont au show, qui voient un peu de traviole, ils essaient de faire, et puis ils essaient de capter des moments, et tout ça, c'est de la vie. Toute cette vie-là, elle a disparu. Donc, il a fallu la remplacer par quelque chose. Par exemple, Gucci, ils ont, eux, imaginé une série, comme une série Netflix, très particulière. Et cette série, elle est absolument divine. Elle vous plonge dans une féerie. Il y a peut-être des pistes, en fait, de, comme on dit, narratives, hein, pour essayer de raconter une histoire aux gens.
Vous avez peur que ça ne revienne jamais comme avant ?
J'ai pas... Alors, les grandes marques, si vous voulez, de toute manière, on voit que les grandes marques sont tellement désespérées qu'il n'y ait plus de show, qu'elles vont absolument vouloir en refaire, quand ça c'est sûr. Mais à part ces grandes marques, je pense que tout le monde est en train de se demander à quoi ça rimait. Vous savez, les shows comme on les connaît maintenant, ça date de, je sais pas, 1973, je crois, par là. Donc c'est avant, il n'y avait pas tout ça. Et avant, attendez, avant il y avait des shows, mais on n'avait pas le droit de les prendre en photo. Vous savez, c'est totalement interdit parce qu'on avait peur que les modèles soient copiés. C'est vraiment dans les années 80, à la fin des années 80, qu'on a commencé à dire, allez, bon, d'accord. C'est quand il y a eu les réseaux sociaux, on n'a plus rien. On a été obligé de laisser pisser, comme on dit. Et donc, en fait, c'était quelque chose de nouveau, ces défilés de mode, et il est bien probable que ça va être remplacé par quelque chose d'autre, de nouveau, tout en gardant un peu de l'esprit des défilés.
Les habitudes de consommation ont changé dans le domaine de la mode ?
Oui, complètement. Ben d'abord, dans les défilés, on dit tout le temps, moi les gens me disent, j'aimerais bien assister à un défilé comme si c'était une place de concert. Mais un défilé, chacun a sa place, autant vous dire, archi surveillé. Et si vous vous trompez de siège, vous êtes passé par les armes. Et il y a les acheteurs qui sont là. C'est avant tout un endroit pour que des gens qui vont acheter 200, 300 pièces viennent voir. Et voilà, ils font le voyage et ils voient ce qu'ils achètent. Donc c'est un marché. Et ça, déjà, ces gens-là qui ont les magasins, enfin les magasins fermés en plus, sont en train d'acheter différemment puisqu'ils voient pas les vêtements. Et ils vont les vendre à des gens en ce moment qui les voient pas. Donc là, pour l'instant, on passe. C'est pas juste un milieu qui change parce qu'on en a marre. Il change pour un cas de force majeure. Donc les gens, et tout le monde, en fait, achète quelque chose qu'ils ne voient pas.
Et maintenant, tout se passe sur Instagram. Hein. Même les défilés sont sur Instagram. Merci Sophie Fontanelle.
Ouais, je vous remercie.
Mais non, c'est nous. Et on se retrouve tout de suite dans un instant plus exactement, avec Frédéric Mounier qui va nous raconter le siège de Paris. Non, ça n'a rien à voir avec la mode cette fois.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Frédéric Mounier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. Votre livre « Le siège de Paris, une histoire française, 1870-1871 » vient de paraître aux éditions du Cerf. Et oui, pour tous ceux qui l'auraient oublié, Paris a été la dernière capitale européenne à subir un siège en règle qui a duré 5 mois à l'époque, il y a 150 ans exactement. Les Parisiens étaient encerclés par 250 000 Prussiens. Ils étaient bombardés par leurs canons, ils crevaient de froid, ils mangeaient du rat, tandis que les plus riches se rabattaient sur l'éléphant du Jardin des Plantes.
Voilà, il y a exactement 150 ans, le lieu même où nous nous trouvons ici à Europe 1, Frédéric Taddeï, était bombardé par les Prussiens. Ouais. Toute la partie sud de Paris a été bombardée par les Prussiens. Et il y a également 150 ans, précisément ce dimanche, le Deuxième Reich a été proclamé dans la Galerie des Glaces par le roi de Prusse, Guillaume Ier, et surtout par Bismarck, qui a été le principal artisan de ce siège.
Oui, c'était le but de guerre, hein, c'était ça. Voilà. Une guerre idiote dans laquelle Napoléon III se laisse entraîner contre la Prusse, et c'est la débâcle en quelques semaines. Il est fait prisonnier à Sedan, l'armée française n'existe plus, les Prussiens ont la voie libre vers Paris, l'Empire s'effondre, et au milieu d'un chaos indescriptible que vous racontez en détail, la République est proclamée à l'hôtel de ville, de Paris, bien entendu, par un homme que l'on a à peu près totalement oublié, Jules Favre.
Oui, parle surtout de Léon Gambetta.
Voilà, il était épaulé par Gambetta, qui est à ses côtés, voilà. Qui n'a que 32 ans, hein, est très jeune. Mais Jules Favre, on l'a oublié. Or, c'est quasiment le héros de votre livre, puisque
Jules
c'est lui qui a le pouvoir.
C'était en quelque sorte le Jean Castex de l'époque. C'était quelque chose, ou peut-être le Édouard Philippe de l'époque, je ne sais pas. En tout cas, c'était le principal acteur. C'est lui qui a permis l'accouchement de la Troisième République dans ces circonstances que vous avez décrites et qui sont extraordinairement chaotiques, sous la pression de l'ennemi prussien et aussi, on va le voir, sous la pression des radicaux.
Oui, un gouvernement est nommé, donc composé d'élus parisiens, puisque le reste du pays, lui, n'est pas encore, en tout cas, est encore libre et n'est pas tellement républicain, d'ailleurs. Et face à ce gouvernement, il y a l'ultra-gauche.
Voilà, ultra-gauche, c'était les Mélenchons de l'époque. Alors, ils s'appelaient Adolphe Blanqui, Jules Miot, Dominique Régère, Abel Pérouton, Charles de Lécluse. C'était des républicains dans l'âme. La plupart avaient quand même un fort sous-titre, disons, anarchiste. Et ils voulaient la révolution tout de suite, ce qui est l'une des grandes traditions historiques françaises.
Le peuple de Paris ne veut pas se rendre. Hein. C'est ça qui est vraiment ce qui caractérise ce moment historique. Il veut la guerre jusqu'au bout. Alors, il faut imaginer Paris avec 2,5 millions d'habitants, parce qu'il y a tous les réfugiés des départements
voisins.
C'était
l'une des plus grandes villes du monde, il ne faut pas l'oublier.
En plus, c'était vraiment la ville lumière, elle avait attiré toute l'Europe. Hein. Et est-ce que, alors, la question, c'est est-ce que toute la population veut comme ça la lutte à outrance jusqu'au bout? Les femmes aussi, on va les envoyer à la campagne, d'ailleurs avec les enfants, en tout cas ceux qui en ont les moyens,
oui.
Avant que les derniers trains... dans les derniers trains, il y a les femmes et les enfants des plus aisés, les pauvres, eux, n'ont pas les moyens, ils restent. Mais toute la population veut vraiment la guerre jusqu'au bout.
Non, vous savez, à Paris, hier comme aujourd'hui, il y a deux Paris. Il y a Paris Ouest et Paris Est. Et donc Paris Ouest avait fui, comme vous avez dit, comme on a vu ça pendant notre précédent confinement. Tous ceux qui peuvent, ils partent. Ils vont à la campagne, ils vont dans leur château, dans leur maison de campagne. Et puis le peuple, il est à l'Est à l'époque, il est à Belleville, il est à Ménilmontant. Ce sont les futurs communards. Il vit très difficilement et lui, il y croit. Il croit qu'on peut faire une levée en masse, on croit que la nation en armes peut faire une sorte de nouveau Valmy, alors qu'en fait, c'est totalement sans espoir.
Les voisins européens vont d'ailleurs nous reprocher notre entêtement. Ils vont mettre sur le même plan la violence des Prussiens qui bombardent à l'aveugle une population civile. C'était la première fois, hein. On n'avait jamais vu ça.
Absolument.
Et l'entêtement des Parisiens de ne pas vouloir se rendre, chacun se nourrissant de l'entêtement de l'autre, au fond, et on nous met sur le même plan.
Oui, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que le peuple avait été quand même victime de propagande assez forte. Hein. C'est-à-dire que tout le monde était parti, la fleur au fusil. On pensait qu'on était la meilleure armée du monde, comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis l'organisation prussienne, et puis les plans prussiens et la détermination prussienne avaient fait le reste. Et donc les Parisiens étaient tétanisés, sidérés, surpris. Ils ne comprenaient pas. Et puis surtout, ils étaient armés. Il y avait la garde nationale, qui était des gens comme vous et moi, qui avaient été appelés sous les drapeaux provisoirement. Et ils voulaient aller à l'encontre de l'ennemi, à la rencontre de l'ennemi pour sauver leur capitale.
Mais est-ce qu'on avait une chance? Parce qu'il y a les fortifications à l'époque,
aucune.
Il y a des forts autour
oui,
de Paris.
Il y a 33 hein, forts autour de Paris depuis 1840.
Voilà, qui sont une sorte de ligne Maginot, là encore. Ça va ne servir à rien.
À rien du tout. À rien
d'habitude.
Du tout. Exactement.
Et puis la proche banlieue, elle est devenue zone militaire, les maisons sont abandonnées.
Voilà, vous racontez d'ailleurs. Une zone de maraîchage aussi.
Voilà, hein. Vous racontez comment les Parisiens sortent la nuit et vont cambrioler les maisons qui ont été abandonnées.
Voilà. Et ils vont cueillir les patates aussi pour se nourrir parce qu'ils crèvent de faim et qu'il fait très très froid. Cet hiver-là, il a fait moins 15 degrés. C'était horrible.
Alors, il y a Adolphe Thiers qui deviendra le premier président de la République, de la Troisième République, et puis surtout le fusilleur des communards. Mais à ce moment-là, Adolphe Thiers, il part dans un marathon diplomatique à travers l'Europe. Il a 73 ans quand même. C'est l'ancien Premier ministre de Louis-Philippe. Ça date un peu. Hein. Et c'est le seul qui était contre cette guerre. Et il était sûr que la France allait la perdre et il avait raison. Et il va prendre le dernier train quittant Paris, il va traverser la Manche pour aller à Londres voir le Premier ministre Gladstone, retraverser la Manche, puis la France, aller Turin, Venise, ensuite arriver à Vienne, il va essayer de discuter avec les Autrichiens, puis Saint-Pétersbourg,
voilà.
C'était quand même pas la porte à côté pour discuter avec le Tsar, puis retour à Vienne, puis Florence, qui était à l'époque la capitale de l'Italie, pour discuter avec le roi d'Italie. Il espère trouver des alliés, il n'en trouvera pas.
Voilà, c'est un échec total, c'est ce qu'on appelle un marathon diplomatique. Il est parti avec ses trois femmes, puisque vous savez que la vie affective de Adolphe Thiers était très riche.
Il est parti avec ses domestiques. Il faut en dire un mot parce que on les appelait les trois moitiés de Monsieur Thiers.
Voilà,
il se trouve qu'il il avait été l'amant d'une femme.
Oui.
Il avait épousé sa fille.
Voilà.
Et il avait gardé la mère en maîtresse. Et
voilà.
En plus, la jeune sœur était devenue sa maîtresse aussi. Donc il vivait avec les trois.
Exactement. Donc il a emmené les trois.
Mais c'était très français, très parisien. Personne ne le lui reprochait.
Voilà. Dans ce marathon diplomatique. Et là, toutes les puissances européennes l'ont bien accueilli parce que c'était quand même un homme qui avait une réputation absolument considérable. Mais il n'a reçu qu'une fin de non-recevoir, si j'ose dire. C'est-à-dire que personne n'a voulu s'engager dans cette affaire qui était mal foutue depuis le début et tout le monde attendait que Paris se rende, finalement.
Et c'est quand même fou, ce marathon diplomatique. À l'époque, c'était quand même pas la porte à côté hein, de faire Paris-Londres, Vienne-Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg-Florence, Florence-Paris. À la fin, il est tellement crevé, il ne peut même pas rentrer dans Paris, il va à Versailles.
Voilà, c'est ça. Il va à Versailles, il va rencontrer Bismarck. Il va essayer de discuter avec lui, mais là aussi en pure perte, parce que Bismarck attend que le fruit soit mûr. L'objectif de Bismarck, c'était d'encercler la capitale dans une ceinture de fer, de la laisser mûrir, de la laisser bouillir dans son jus. Il savait que le gouvernement provisoire, sous la houlette de Jules Favre, était un gouvernement fragile. Il savait qu'il y avait des révolutionnaires à l'œuvre. Et... il se disait, je ne sais pas qui sont mes interlocuteurs, je ne sais pas qui incarne aujourd'hui la nation française, donc on va les tenir, on va les asphyxier.
Et on va attendre qu'ils s'entretuent, et au fond c'est ce qui se passera. On se retrouve dans un instant, Frédéric Mounier.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Frédéric Mounier qui nous raconte le siège de Paris... C'était entre 1870 et 1871. Son livre vient de paraître aux éditions du Cerf. On commémore le 150e anniversaire du siège de Paris, la dernière capitale à avoir subi un siège en règle. Hein. Ça n'est plus jamais arrivé depuis. On vient de le dire, Bismarck n'essaye pas de rentrer dans Paris. Il laisse les Parisiens mijoter, persuadés qu'ils vont finir par s'entretuer. Il mise sur la guerre civile et elle ne tardera pas. Il nous connaissait bien. Au fond, il avait été ambassadeur chez nous. Hein.
Il avait été ambassadeur de Prusse chez nous pendant un peu plus d'un an, juste 2 ou 3 ans avant cet épisode tragique. Et donc, les Français se sont affrontés. Ça a été le prélude de la Commune. Il y a eu 2 tentatives de coup d'État pendant le siège de Paris. Vous imaginez, les gens crevaient de faim, il faisait froid, il n'y avait plus de travail. Et les ultra-gauchistes radicaux, on pourrait presque dire les gilets jaunes de l'époque, c'est-à-dire en quelque sorte des classes moyennes en crainte de déclassement, eh bien, ils ont fait le siège de l'hôtel de ville à 2 reprises avec les armes, puisque tout le monde était armé. Ils ont tenté de prendre le pouvoir face à Jules Ferry, face à Jules Favre, face à Adolphe Crémieux et Jules Simon et d'autres. Et puis la démocratie représentative si fragile a réussi à se maintenir, et la démocratie directe, avec une once de violence quand même, s'est reportée. Et quelques semaines après, ce sera la Commune.
C'est là où ce livre est passionnant, c'est que notre République française sort de là. Hein. Tous voilà. Ceux qui vont faire les grandes lois que nous respectons encore, pour un certain nombre voilà. D'entre elles, sont là pendant ce siège de Paris. C'est là qu'ils émergent, au fond.
Voilà, c'est la matrice.
C'est la matrice de tout. Alors, il y a ces ballons qui décollent. Quand j'étais enfant, dans les livres d'histoire, on voyait les ballons décollants de Montmartre, avec Gambetta à bord, notamment. C'est le seul moyen de rompre l'encerclement. Hein. Or, ces ballons, vous racontez qu'ils ne sont pas dirigeables.
Mais oui, c'est le principe.
On va en lancer 65 au total, voilà. et un terminera en Norvège.
Absolument.
C'est fou.
D'autres vont terminer chez les Prussiens. Gambetta a failli atterrir chez les Prussiens. Ça s'est joué à quelques minutes. C'était tout à fait aléatoire. Il fallait un courage considérable pour embarquer à bord de ces ballons.
Alors, on envoie du courrier, parce qu'il y a encore des relais du gouvernement qui sont à l'extérieur, à Tours notamment.
On invente la microphotographie.
Voilà. Et exactement. Sinon, il y a les pigeons voyageurs aussi qui servent beaucoup. Mais ce que je trouve très drôle, ce que vous racontez, Frédéric Mounier, c'est que quand il y a une ceinture de fer, comme vous l'avez dit, autour de Paris, et quand Bismarck, tout à coup, voit s'élever le premier ballon qui franchit les lignes prussiennes, il trouve que ça n'est pas loyal. Et c'est ça qui est drôle, c'est que pour la première fois dans une guerre, au fond, ça ne se passe pas seulement sur terre et sur mer, ça se passe aussi dans les airs, voilà. Et on trouve ça pas loyal.
Et les Prussiens ont même inventé une sorte de mitrailleuse anti-aérienne, évidemment, qui n'a servi à rien. Mais un bon nombre de ces ballons sont tombés dans des mauvaises mains, bon nombre se sont effondrés, ça a été très très compliqué.
Alors il y a 150 ans précisément, vous l'avez dit, le roi de Prusse, qui a 73 ans, est couronné empereur d'Allemagne au château de Versailles. Toute l'Allemagne à ce moment-là était divisée en principautés ou en royaumes, et là pour la première fois depuis très très longtemps, empereur va coiffer l'ensemble. C'était le véritable but de guerre. Hein. Si Bismarck voulait cette guerre contre la France, c'est parce que ça allait lui permettre d'unir l'Allemagne.
Voilà, et cette unité allemande, en quelque sorte, ces semaines que j'évoque dans mon livre, ont été la matrice de la République française et de l'unité allemande. C'est en cela qu'elles sont absolument passionnantes.
Alors, Paris assiégé ne se résigne pas, on veut attaquer, il y a des sorties souvent suicidaires, alors que la ville entière s'éclaire à la bougie, on gèle, la faim règne. Ça va durer comme ça jusqu'à la fin du mois de janvier.
135 jours. 135 jours de souffrance, 135 jours de difficultés, d'inquiétudes, de frustrations, de tensions politiques. Moi, ça m'a vraiment fait penser à deux choses. Enfin, quand je vois l'actualité aujourd'hui, je vois l'assaut du Capitole à Washington. Ben, c'est exactement la prise de l'Assemblée nationale le 4 septembre 1870 à Paris, qui a permis à Jules Favre et à Léon Gambetta d'emmener la foule à l'Hôtel de Ville pour proclamer la République.
Parce qu'avant, ils avaient envahi l'Assemblée nationale. Hein.
Voilà, ouais. Exactement. Et puis les Gilets jaunes à Paris, c'est exactement la même chose aussi. C'est-à-dire qu'une force populaire irrépressible qui veut s'emparer du pouvoir, qui veut lutter contre le vieux système, qui déteste les élites et qui veut tenter la prise du pouvoir.
Et qui veut jusqu'au bout se battre contre les Prussiens alors qu'il n'y a aucune chance, c'est impossible. Et au fond, demander l'armistice, ça va être terrible. C'est un sacrifice. On sait qu'on va se mettre le peuple à dos.
C'était l'humiliation absolue avec une indemnité de guerre de 5 milliards d'euros, enfin 5 milliards de francs à l'époque, c'était absolument considérable. C'était l'humiliation absolue. Il a fallu donner l'Alsace et la Lorraine. Alors, du côté allemand, évidemment, on vous expliquera que c'est Louis XIV qui avait volé l'Alsace et la Lorraine. Et donc, pour les Allemands, il s'agit du retour à la maison de ces provinces. Mais pour les Français, comme vous le savez, la question de la revanche sera l'une des principales motivations, 70 ans plus tard, de la guerre de 1914.
Alors, c'est vrai que c'est aussi la matrice des deux guerres mondiales qui vont suivre. Hein,
cette
guerre franco-prussienne et ce siège de Paris.
En un sens.
Tout se joue là, au fond, une bonne partie de ce qui va suivre. Et puis, après l'armistice, il y a l'élection, une élection législative qui est autorisée par les Allemands. Thiers va la remporter. Il devient le premier président de la République. Jules Favre devient son ministre des Affaires étrangères.
Il devient le premier président du gouvernement. Oui. C'est ensuite 3 ans plus tard
qu'il sera président de la République. Oui. Et quand Favre rejoint Thiers, il y a la Commune qui reste. Et là, ensuite, on va s'entretuer.
Voilà, on va s'entretuer gravement, très très gravement, puisque là, l'expérience de la Commune ne durera que quelques semaines. C'est une expérience qui sera une expérience révolutionnaire tout à fait désastreuse, très très triste. Les communards vont s'entre-dévorer entre eux, ils vont improviser jour après jour leur gouvernement, et finalement Thiers et l'armée française va rentrer là-dedans comme dans du beurre. Enfin, ils vont rentrer par la porte de Saint-Cloud en mai 1871 parce qu'il n'y a personne face à eux, et puis il va y avoir, ça va être absolument horrible, il y aura 18 000 morts, d'où ensuite cette sorte de martyrisation de la Commune.
La semaine sanglante, mais ça, c'est une autre histoire. Le siège de Paris, le livre de Frédéric Mounier s'arrête juste avant. Il vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci Frédéric
de nous avoir
rappelé cette épopée tragique, mais une épopée quand même qu'on a souvent oubliée.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain, juste après le flash. Ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, Mickaël Darmon.
Gérard Larcher, ce matin, notre invité, président du Sénat, deuxième personnage de l'État. Avec lui et le président de la République, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Un coup je griffe, un coup j'accompagne.
Merci Mickaël, bonne émission.